Gaza la vie. Voilà, ici Nelly du Comité Palestine. Je suis autour de cette table avec mes amis qui vont se présenter. Christian, peut-être d'abord.
Oui, donc Christian, voilà. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que je participe à une émission de ce type.
Oui, Mahmoud Aouichaouich, je suis palestinien, j'habite à Albi depuis presque 5 ans et je participe pour la troisième fois aussi,
voilà,
avec mes amis.
Bon, ben, nous remercions bien sûr Radio Albigès et Melvin qui mettent à notre disposition le studio d'enregistrement. Et peut-être deux mots sur comment va se dérouler cette émission. Nous serons bien sûr pendant un premier temps en relation avec Gaza, avec notre ami Ziad Medouk, professeur de français, poète et écrivain, un citoyen engagé dans la résistance à l'occupation, une résistance non violente par l'éducation, la culture et l'entraide sociale. Donc la première partie de l'émission lui sera consacrée, si je puis dire, et nous poursuivrons le dialogue que nous avons engagé dès les deux premières émissions. La seconde partie de l'émission permettra au Comité Palestine de rendre compte de son activité. Donc voilà, on peut rentrer en contact avec notre ami Ziad.
Oui, bonjour Ziad, c'est Christian.
Bonjour Christian.
Voilà, donc avant d'entrer, si je puis dire, dans le vif du débat, nous aimerions évoquer brièvement le triste événement qu'a subi le Comité Palestine. Je veux parler de la disparition de notre camarade Daniel. Donc Daniel qui a participé dès la naissance d'un collectif d'associations pour une paix juste et durable en Palestine, bien avant que notre comité existe et prenne le relais de ce collectif. Elle était présente à chaque réunion de notre comité jusqu'à ses derniers jours, malgré les souffrances de sa maladie. Elle a été aux côtés de son compagnon Georges en première ligne à toutes les manifestations. Enfin, en un mot, son investissement était total pour la défense du peuple palestinien et pour dénoncer la politique criminelle de l'État d'Israël. En avril 2002, elle a fait une vaine tentative, si je puis dire, de venir en Palestine, puisqu'elle a été refoulée à l'aéroport de Tel Aviv. Cela n'a fait que renforcer sa détermination. Il ne faut pas oublier non plus ses actions de solidarité envers Georges Ibrahim Abdallah pour exiger sa libération. Bref, la disparition de Daniel va laisser un grand vide au sein de notre comité, mais nous pensons que la meilleure façon de lui rendre hommage est de poursuivre le combat qu'elle a si souvent mené à nos côtés. Donc, nous penserons à Daniel, nous penserons à elle, à chaque action de solidarité de notre comité avec le peuple palestinien. Et nous avons décidé de lui faire savoir à ce peuple palestinien, par ton intermédiaire, le dévouement qu'elle a fait preuve par rapport à cette cause. Aussi, nous avons une petite idée, tu diras si cela te paraît possible, c'est que peut-être donner à Gaza ou ailleurs, si possible à Gaza, le nom d'un, son nom à un lieu, un espace, ou ne serait-ce peut-être qu'une salle qui porterait son nom, dont le nom de Daniel Varnies. Est-ce que tu comprends notre démarche? Est-ce que tu penses que cette initiative pourrait voir le jour?
D'abord, merci beaucoup Christian. Bonjour Radio LBG, bonjour Nelly, Mahmoud, Christian, Georges. Avant de commencer cette émission, donc, je rends un grand hommage comme vous à Daniel, donc, décédé la semaine dernière à LB. Et mes sincères condoléances à Georges et à tout le comité de Palestine 81. Comme vous avez évoqué, donc, c'est la troisième émission de lien entre Gaza, Gaza la vie et LB, le comité de solidarité. une solidarité appréciée par les Palestiniens, en général les Palestiniens de Gaza qui souffrent, qui vivent en blocus israélien inhumain. Et donc, bien sûr, nous souffrons avec vous la disparition d'une grande militante pour la Palestine, et bien pour le donner un nom d'un lieu, une salle ou une école, donc je vais voir avec les autorités locales. Et même si les démarches sont très longues dans le contexte actuel de Gaza, mais promis, donc vous envoyez donc les détails sur sa vie, son engagement pour la Palestine et pour toutes les causes humanitaires dans le monde, et je vais faire de même mieux pour que ce vœu soit réalisé à Gaza. Je pense qu'on arrivera avec les efforts encore de Mahmoud, donc un Gazaoui, un grand militant Gazaoui actuellement Albi. Et donc je pense qu'on va essayer de faire quelque chose, même si on trouve pas, on trouvera une solution avec Mahmoud, parce que Mahmoud, c'est un Palestinien de Gaza qui a vécu à Gaza. Et donc, il est albé depuis 5 ans, mais je pense qu'on trouvera une solution pour cette proposition et qui sera, donc, à mon avis, réalisable et acceptable pour les Palestiniens de Gaza qui n'oublieront jamais le soutien, les efforts et l'engagement de Daniel, de tous les leaders de mon volonté qu'ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur engagement pour soutenir la cause palestinienne et la cause de justice.
Nous te remercions, Ziad. Voilà, maintenant, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui te paraît le plus important de dire par rapport à la vie à Gaza? Qu'est-ce qui te paraît le plus significatif comme information à nous donner sur la situation actuelle?
Écoutez, on peut parler de la situation actuelle dans les territoires palestiniens en général et dans la bande de Gaza, une situation explosive sur tous les niveaux. Donc, avant-hier, il y a eu 3 morts palestiniens, 3 jeunes assassinés par les soldats israéliens à Nablus au nord de la Cisjordanie. Ce matin tôt, un Palestinien de 17 ans a été assassiné donc à Jenin. Hier, avant-hier, il y a des affrontements à Sheikh Jarrah. Donc, pour rappel, Sheikh Jarrah, c'est un quartier arabe qui se situe à Jérusalem-Est et qui est menacé d'être volé et d'être donc nettoyé ethniquement par les colons et les soldats israéliens qui provoquent les Palestiniens au quotidien. Donc, hier, il y a eu des affrontements. Et Sheikh Jarrah, elle est dans la mémoire des Palestiniens parce que au mois de mai 2021 dernier, c'est à partir des événements de Sheikh Jarrah que la 4e offensive israélienne contre la bande de Gaza a commencé. Donc, nous avons des souvenirs tristes avec ce quartier, même si nous saluons et nous rendons un grand hommage à ces habitants qui ont continué à donner de leur temps, de leur énergie, de leur sang, parce qu'il y a eu 13 blessés et 25 arrestations hier aujourd'hui, sans oublier les provocations et les visites des colons extrémistes israéliens sur les lieux pour chasser, expulser les Palestiniens. Donc, en général, la situation en Cisjordanie. Pour la bombe de Gaza, je pense, par rapport à notre émission, je pense que c'était le mois de novembre dernier, il y a une seule phrase qui résume cette situation, et cette phrase, on donne à tout le monde. Une phrase intitulée « Rien n'a changé à Gaza ». Donc, depuis presque 4 mois, même depuis 8 mois, et aujourd'hui, on arrive au 9e mois depuis le début de l'offensive militaire israélienne, la 4e offensive contre la bande de Gaza entre le 10 et le 20e mai 2021. Donc, la situation, elle est stagnante. Donc, rien n'a changé. Comment, ça veut dire, aucun projet de reconstruction privée et publique n'a commencé par ordre militaire israélien, parce que les Israéliens refusent l'entrée des matériaux de construction. Et donc, par conséquent, donc, il y a beaucoup de Palestiniens de Gaza qui vivent soit dans les centres d'accueil, soit chez leurs proches, en attendant donc l'accélération de projets de reconstruction. Donc ça, numéro 1. Il y a le blocus israélien qui va entrer dans 2 mois son 15e année, donc au mois de juin prochain, donc 15 ans de blocus, 15 ans de pour les Palestiniens, 15 ans d'environnement, 15 ans, 2 millions de Palestiniens, 200, 2 millions, presque 150 000 Palestiniens, une situation terrible sur tous les niveaux. Ils sont privés de beaucoup de choses, mais une population qui a choisi de résister, de continuer à s'accrocher à la vie. Donc voilà, deuxième élément. Troisième élément, donc, en dehors de cette situation stagnante, donc, il y a beaucoup d'événements qui se passent au quotidien dans la bande de Gaza depuis la fin de la dernière offensive jusqu'à nos jours, mais malheureusement, les médias ne parlent pas. Heureusement qu'il y a des communautés de solidarité, il y a des associations, il y a des groupes de solidarité comme le vôtre qui essaient un peu de relier les informations, qui essaient de partager les nouvelles sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Et heureusement, il y a des réseaux sociaux où beaucoup de Palestiniens, y compris les Palestiniens francophones, il y a la chaîne Gaza Labi, de donner des nouvelles sur les événements actuels, les événements au quotidien, donc dans la bande de Gaza. Et parmi ces événements, donc il y a les attaques contre les pêcheurs palestiniens. Aujourd'hui, il y a 7 pêcheurs qui ont été arrêtés par la marine israélienne. Il y a les attaques et les agressions contre les paysans palestiniens sur les frontières. Il y a les bombardements, il y a beaucoup de blessés, mais quand il y a 2 ou 3 morts, quand il y a 5 ou 6 blessés, donc ça, les médias, malheureusement, ont vu que cette réalité, ils ne parlent pas de cette réalité, ils ne parlent pas de ces événements. Mais les événements sont terribles dans la bande de Gaza, et donc les médias ne parlent pas de ces événements. Mais nous vivons vraiment une situation explosive sur tous les niveaux. Mais l'aspect qui est dramatique, c'est la perspective, surtout pour les jeunes, parce que les choses n'avancent pas depuis des années. Pour cette raison, je pense que c'est l'élément le plus triste pour les Palestiniens, notamment pour les jeunes qui voient leur avenir perdu parce que rien ne change. Les frontières sont fermées, les passages sont fermés, donc il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de relation avec l'extérieur. Donc il y a beaucoup de produits qui rentrent dans la bande de Gaza. Les projets de reconstruction ne commencent pas, donc situation terrible sur tous les niveaux. Donc pour cette raison, je pense que les jeunes sont souvent désespérés, même si heureusement, il y a une société civile très forte qui essaie un peu de se mobiliser pour cette jeunesse désespérée. Il y a des associations, il y a des groupes, il y a des initiatives, donc de solidarité familiale. Donc, mais on peut dire que la situation est terrible. Autre événement, par exemple, les coupures d'électricité, surtout cette année, parce que cette année, décembre, on a une saison de froid très difficile parce qu'on a beaucoup d'inondations, on a beaucoup de pluie, donc conséquence pure d'électricité. Pourquoi il y a beaucoup d'inondations? Parce que les routes sont détruites, des bombardements intensifs de mai dernier. Donc, on a malgré la bonne volonté de la population, les élèves continuent à aller à l'école, mais les routes sont difficiles à accès jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'amélioration de la situation. Coupure d'électricité, donc c'est vrai, pendant 6 mois, on a eu une période stable, ça veut dire de 6 à 8 heures, mais pendant cette période de froid, pendant cette période d'hiver, donc on a eu seulement 4 heures, et jusqu'à maintenant, on a 4 heures d'électricité par jour, donc c'est terrible. Après, on a une mauvaise connexion à Internet, donc voilà, et surtout des conséquences sur les puits d'eau, parce que les puits d'eau se passent sur le courant électrique. Après, sur les hôpitaux, sur les écoles, sur les universités, donc voyez, il y a une situation catastrophique. Après, il y a un manque de gaz, manque de carburant. Donc tout cela par ordre militaire israélien. L'objectif israélien, c'est de mettre la pression sur cette population, une population qui est toujours attachée à sa terre, une population résiliente, une population résistante, que malgré les crimes, les massacres, les bombardements, la situation économique terrible, mais une population s'est continuée à s'accrocher à la vie, continuer à garder espoir et continuer donc à vivre une vie normale, dans des conditions anormales, donc avec l'espoir d'un changement, mais surtout un changement politique. Mais pour le moment, les Palestiniens de Gaza vivent une situation explosive, une situation catastrophique. Heureusement qu'il y a des signes positifs comme l'école, les universités, donc la solidarité familiale et sociale.
Ziad, justement, j'aimerais que tu nous parles de tous ces aspects. Le bilan est terrible, hein. On en entend bien ce que tu nous expliques là. La vie quotidienne doit être extrêmement difficile, mais nous savons par tout ce que tu nous transmets par Internet, avec la chaîne Gaza la vie, qu'il y a aussi une vie sociale et solidaire très très forte. Donc aujourd'hui, on aimerait aussi que tu nous parles de ce qui est vraiment positif, tourné vers la vie, par l'activité d'une association comme celle que tu animes, Gaz à la vie. Notamment, je sais que vous faites pas mal de choses sur le plan culturel, sur le plan social, bien sûr, d'aide en direction des enfants, des populations qui sont complètement démunies, tout ça. Mais aussi, malgré tout, malgré ce contexte terrible, il y a aussi le souci de faire évoluer les choses par cette activité culturelle. Vous parlez de théâtre, de danse, de musique, peut-être même de cinéma, je ne sais pas. Une fois, tu avais dit que le cinéma aussi existait à Gaza, et comment, sous quelle forme. Voilà. Est-ce que tu pourrais aussi nous donner un peu une idée de tout cela?
Merci beaucoup, Nelly, pour cette question très intéressante. Donc voilà, pour répondre à votre question, il y a quatre éléments. D'abord, il y a une solidarité familiale et sociale très forte à Gaza. Après, il y a un rôle très important du service civil dans la bande de Gaza. Puis, il y a les activités culturelles. Et à la fin, je vais parler de l'initiative Gaza la vie, comment elle développe cet échange avec le monde pour comprendre lié à la culture et l'éducation. Donc, la solidarité familiale et sociale, et je pense que votre groupe de collectif palestinien 81, toi, Nelly, Mahmoud, Christian, Georges et les autres, donc, on reçoit de façon régulière les événements, les informations qui proviennent de Gaza. Donc, la solidarité familiale et sociale, donc, c'est un élément très positif. Ça veut dire, je vais donner quelques exemples. Par exemple, on a un groupe de professeurs qui pourra ramasser des dons pour distribuer aux pauvres. Par exemple, distribuer la viande, distribuer des colis alimentaires, des colis sanitaires pour la crise sanitaire. Donc ça, c'est la solidarité sociale. Après, à Gaza, il n'y a personne ne meurt de faim et personne ne dort dans la rue. Donc si quelqu'un a un problème de logement, il peut être logé chez les proches, chez les familles. Donc même s'il n'a pas de famille, il peut être logé. On a vu ça pendant les événements tragiques de mai. Donc nous, dans notre maison, on a reçu 80 personnes, dont nos proches qui habitent loin, qui habitent d'autres villes ou d'autres quartiers. Donc même les voisins, ils sont venus ici comme le quartier était donc dévasté et bombardé. Donc il y a une solidarité familiale et sociale très forte, là, qui s'est traduite donc par l'accueil des familles, la distribution des colis alimentaires, par exemple. Vous avez reçu le mois de décembre, il y avait un groupe de Palestiniens qui ont distribué des machines à coudre donc aux familles pauvres, comme ça, pour vivre en toute dignité. On a un groupe qui a distribué des chariots, comme ça, à ventre mobile, comme ça, pour aider les jeunes à travailler. Donc, il y a beaucoup d'initiatives dont la chaîne Gaz à la vie essaie de montrer en français au public francophone. Donc, ça, c'est un élément très important. Et bien sûr, il y a d'autres éléments de solidarité. Par exemple, on a un restaurant solidaire. Donc, les restos solidaires, ça, c'est magnifique parce que il y a des restos solidaires distribués, par exemple, 100 à 120 repas pour les familles diminuées, les populations diminuées. Et donc, on peut dire que malgré le manque de beaucoup de matériaux, malgré la situation économique, mais il y a une solidarité. Donc, les riches essaient un peu d'aider donc, les pauvres pour survivre, pour satisfaire leurs besoins. Et donc, ça, c'est un élément très important au niveau de la solidarité. Après, nous avons la société civile qui est très forte, donc la société civile dans la bande de Gaza, historiquement et actuellement. Même si cette société civile elle souffre, parce qu'elle souffre des mesures atroces de l'occupation, elle souffre de la division interpalestinienne, mais c'est une société civile qui, par exemple, les associations, nous avons les clubs sportifs, les groupes, les initiatives dont il y a plein d'activités. On a 1300 associations dans la bande de Gaza. Il y était 2700 associations, mais avec la division, la destruction, les bombardements. Donc maintenant, on a presque 1350 associations qui travaillent dans tout le domaine, les femmes, les handicapés, les enfants, le soutien psychologique, donc la formation. Et donc, la société civile, c'est un élément très fort, surtout dans le contexte actuel. Après, pour la vie culturelle, oui, nous avons une vie culturelle très riche. Nous avons les écrivains, les poètes, nous avons le groupe de théâtre. Et le problème de la Palestine et Gaza en particulier, que le média, malheureusement, il ne montre pas cet aspect positif. Il parle quand il y a des clashs, quand il y a des missiles, quand il y a des événements, quand il y a des bombardements, mais il ne parle jamais qu'un groupe de théâtre à Gaza, il fait des spectacles, qu'il y a des initiatives de réouvrir les cinémas qui ont été fermés dans les années 90. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'événements culturels qui se passent. Et donc, si vous regardez la chaîne Gaza la vie, vous pouvez voir, on essaie en français de montrer quelques événements culturels, ça veut dire projection du film dans la bande de Gaza, quand il y a un groupe de théâtre, quand il y a la musique. Donc, et d'ailleurs, peut-être on va vous inviter, peut-être fin février, début mars, on a un échange entre justement sur la musique palestinienne. Et donc, il y aura un échange entre les francophones et les musiciens palestiniens de Gaza. Donc, il y a un groupe de musiciens jeunes, vieux, donc sur toute la musique, il y a un groupe de Dabka qui va venir danser la Dabka, la danse traditionnelle palestinienne. Il y aura un groupe de jeunes qui vont chanter. Il y a des chanteurs, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieux messieurs qui vont parler un peu de la musique. Donc, on va vous inviter pour participer par Zoom à cet échange.
Merci.
Qui sera donc voilà. Dernière chose, c'est l'initiative. C'est pas une association, mais l'initiative Gaza la vie, qui essaie un peu. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Gaza la vie, une chaîne YouTube. Et il y a un groupe de jeunes francophones étudiants du diplôme de français qui sont bénévoles, qui essaient un peu de montrer la vie quotidienne au monde francophone à travers, voilà, comment montrer qu'il y a à Gaza, il y a des mariages, il y a des écoles, il y a des universités, il y a donc, malgré toutes les difficultés, il y a des activités culturelles, donc, pour découvrir, par exemple, la broderie palestinienne. Donc, voilà, donc ça, c'est la première activité de cette chaîne, c'est parler de la réalité que les médias ne parlent pas. Deuxième activité, c'est le groupe de jeunes, ils font beaucoup d'échanges avec le monde francophone. Donc, on fait beaucoup d'échanges chaque semaine, on fait avec un professionnel, un traducteur, un spécialiste de littérature. Donc, vous avez reçu peut-être, le mois de janvier, on a organisé un échange avec 20 personnes dans le pays francophone,
oui,
sur justement la culture palestinienne, le rôle des femmes. Les femmes, ils ont parlé de la broderie palestinienne, ils ont parlé de la nourriture, ils ont parlé de leurs produits fabriqués localement. Donc, il y aura d'autres rencontres, bien sûr. On va vous inviter pour y participer. Donc, voilà la mission de la chaîne et l'initiative Gaza la vie, c'est montrer la vie quotidienne, la vie culturelle, montrer la solidarité, montrer les repas, la culture, le théâtre. On peut dire qu'il y a une vie très riche à Gaza, une vie qui avance lentement, mais dans des conditions difficiles et anormales.
C'est formidable. Écoute-moi, Ziad, on t'avait suggéré pour cette émission de justement donner la parole à une jeune fille ou à une femme qui parle français. Et voilà, ça serait peut-être le début d'un échange entre nous et vous, tu vois, pour la suite, pour envisager peut-être quelque chose de plus construit par la suite. Est-ce que tu...
D'accord, vous me direz quand il va intervenir.
Quand tu veux.
De l'envoyer les yeux.
Bonjour à tous.
Bonjour, ici.
Oui, bonjour.
Alors ici Nelly, ici...
Mahmoud.
Christian.
Nous sommes...
Rada.
Oui.
Je m'appelle Rada Abed.
Rada, bonjour Rada.
Bienvenue à la radio qui s'appelle Albigest, à Albi. Dans le midi de la France.
Au sud de la France.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, merci.
Nous sommes très heureux d'être en relation avec vous. Il y a plusieurs mois maintenant que nous sommes en relation avec Ziad et qu'il nous tient au courant de tout ce que vous faites malgré les grosses difficultés, la situation terrible que vous vivez à Gaza. La vie l'emporte sur tout, voilà. Est-ce que vous auriez un message à nous transmettre, à faire passer ?
Ici à Gaza, la vie est difficile pour tous, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Moi, c'est Rada Abed, je suis femme au foyer,
oui.
J'habite à Gaza. Je participe quand j'ai le temps en activité francophone, comme les échanges de Zoom avec les solidaires francophones et les camps d'été pour les enfants de Gaza.
Mm-hmm.
Ici, les femmes de Gaza jouent un rôle très important dans la société, elles sont sur tous les fronts de, à la maison, du travail, dans les associations. Elles sont très actives. Mmh. Elles participent activement à la résilience de la population civile. Elles encouragent aussi, elles encouragent leurs enfants à aller à l'école. Elles sont le passé et l'avenir. Elles se battent au quotidien pour leurs droits.
Elles sont courageuses.
Oui, c'est, bien sûr. Vous avez l'exemple du film Être femme à Gaza, réalisé par la chaîne Gavi, qui parle de femmes courageuses et déterminées de Gaza. Bravo les femmes de Gaza.
Voilà.
Oui, bravo les femmes de Gaza. Bravo. Merci beaucoup, Rada.
C'est notre ami Mahmoud qui est palestinien et qui est de Gaza. Donc, ça lui fait énormément plaisir d'être en relation avec vous. Voilà. Et donc, nous allons, nous, avec nos faibles moyens, notre comité Albi, voir de quelle manière nous pouvons aussi vous soutenir, vous aider un peu plus efficacement à l'avenir, en espérant que la situation évolue positivement pour vous. Voilà. Bon, ben je
merci.
Merci, Rada.
Oui.
Oui.
Merci à vous aussi.
Et
votre solidarité.
Et espérons à une prochaine fois où il serait peut-être bon qu'il y ait un dialogue entre vous et une jeune fille ou une personne, une femme d'ici. Voilà. C'est sur ce vœu que nous te disons au revoir.
Voilà. Est-ce que Ziad est à l'antenne, là encore ?
Merci beaucoup.
Merci Rada. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir, Rada.
Nous voudrions dire au revoir à Ziad. Donc, nous allons te dire
au revoir.
Et justement, après ce premier contact, on va réfléchir à comment poursuivre une autre fois avec peut-être un dialogue entre...
Avec plaisir, nous sommes prêts à coopérer. Merci beaucoup pour cette émission. Bon courage pour la suite.
Voilà.
Et n'oublie pas de nous envoyer le lien.
Voilà. Et si tu veux rester à l'antenne, tu peux. Nous allons parler maintenant de l'activité de notre comité. Voilà.
Je pense qu'il est mieux de rester.
Avec plaisir.
Voilà.
Okay. Avec plaisir, je suis là. Okay, vous me dites avec plaisir.
Merci à toi. D'accord. Et merci à Rada.
Bon. Voilà.
Ok, maintenant, on entend pour une chanteuse palestinienne, qui s'appelle Dalal Abu Amna. Dalal Abu Amna, né en Palestine, Nazirat, en 1983. Elle est chanteuse. Il a aussi un doctorat dans le domaine de physiologie des nerfs et la science du cerveau. Et elle va chanter un folklore palestinien.
صبيه يا مريضه على الميه
Et voilà, c'est un exemple d'une chanson palestinienne. Elle parle, le titre de chanson, Leia Leia Yabnaya, à moi la fille. Et c'est un type d'un folklore palestinien sur l'amour.
Je pense que maintenant nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Et je donne la parole à mon ami Christian. Voilà.
Oui, nous allons revenir un petit peu sur l'année qui vient de s'écouler et voir un petit peu quelles peuvent être nos perspectives pour 2022. Bon, nous avons eu dernièrement notre Assemblée Générale où, comme beaucoup d'autres associations, notre comité a constaté qu'il avait eu depuis 2 ans, en raison de la pandémie, une activité réduite. Hein. Pourtant, la situation en Palestine, comme vient de le confirmer l'intervention de Ziad, exigerait une implication toujours plus forte pour faire barrage à la politique israélienne. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit, les exécutions sommaires, les humiliations, bombardements, spoliations. Enfin, la liste des crimes n'en finit pas de s'allonger, sans parler aussi des conditions de détention des prisonniers, dont certains maintenus aux arrêts malgré de très graves maladies. Comme il fallait s'y attendre, l'arrivée aux États-Unis de Joe Biden a eu aucune influence sur la politique israélienne, toujours aussi répressive, et n'a en rien contribué à l'avancée d'un quelconque processus de paix. Plus que jamais, les Palestiniens savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et la mobilisation citoyenne de tous ceux qui, de par le monde, manifestent leur indignation devant tant d'injustices. Malgré ça, Israël a de plus en plus de mal à dissimuler ses crimes et l'argument de l'antisémitisme brandi à tout bout de champ dès que l'on prend fait et cause pour la cause palestinienne semble marquer le pas. Contrairement à la campagne boycott d'investissement Saxion qui, elle, prend de plus en plus d'ampleur, et avec quelques succès, notamment ceux enregistrés par exemple lors de la perte du procès intenté par Teva, qui est une officine israélienne pharmaceutique, à l'encontre d'Euro-Palestine. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que nous avons fait malgré donc la situation sanitaire en 2021. Nous nous sommes efforcés, malgré tout, de mener à bien quelques actions. Voilà, nous avons eu un certain nombre de réunions, des prises de contact avec Ziad, comme celle qui vient de se produire à la radio. Nous avons manifesté aussi par rapport à la campagne BDS. 2 sorties étaient prévues à Albi, l'une a été s'est réalisée, elle a eu une certaine ampleur puisque 12 militants ou amis ont participé sur le Vigan à la distribution de tracts, déploiement de banderoles et de slogans. Malheureusement, celle que nous avions prévue au mois de décembre a dû être annulée à cause des intempéries. Au moment de l'offensive israélienne sur Gaza, nous avons été à l'initiative de 2 rassemblements sur le Vigan, le 18 mai et le 1er juin. De très nombreuses associations ont appelé à ces rassemblements, dont le premier avait été interdit en dernière minute par la préfecture et qui a valu quelques soucis à quelques participants. Nous avons aussi, comme c'est maintenant, je dirais, la tradition, mené à bien notre activité Ciné-Palestine en partenariat avec la salle Arcée, Le 17 juin dernier, Nelly vous reparlera plus spécifiquement de cette activité. Il y a eu deux films projetés et une bonne participation du public. Et une nouvelle soirée cinéma a connu elle aussi un grand succès le 9 décembre, avec notamment 75 participants qui ont apprécié le documentaire « Le char et l'olivier » qui trace un tableau très, très significatif, très clair de ce conflit, de ce qu'on a coutume d'appeler le conflit palestinien. Nous avons aussi marqué notre solidarité avec le plus vieux, je crois, prisonnier politique de France, Georges Ibrahim Abdallah, donc je parlais que c'était le plus vieux prisonnier politique d'Europe, puisqu'il est incarcéré depuis 37 ans à la prison de l'Almezan. Et donc, comme chaque année, il y a eu un covoiturage organisé à partir d'Albi pour se rendre à la manifestation annuelle qui, cette année, s'est déroulée le 23 octobre devant la prison de l'Almezan. Il y avait 12, au minimum, 12 Tarnais et Tarnaises qui ont participé à ce déplacement. À noter aussi en octobre notre présence à la soirée organisée par l'association France-Palestine Solidarité à Rabastens autour du film Gaza balle aux pieds. Et depuis plusieurs années, avec une autre militante du comité, Odile, nous envoyons régulièrement des lettres à une prisonnière palestinienne et quelquefois aussi à notre ami Georges Ibrahim Abdallah à l'Almezan. Voilà résumé un petit peu notre activité. Et maintenant, je vais céder la parole à Nelly qui va vous parler de la prochaine initiative Ciné-Palestine.
Oui, merci Christian. Oui, voilà, Christian a déjà parlé de cette initiative qui n'est pas récente, puisque ce sera cette année la cinquième année que nous participons à la décentralisation du festival Ciné-Palestine Toulouse-Occitanie. Et donc, malgré les aléas du confinement, a pu quand même se tenir, mais quelquefois déplacé comme l'an dernier, mais a pu se tenir chaque année depuis 2018. Bon, la scène nationale d'Albi, en l'occurrence la salle Arcée, que nous tenons d'ailleurs à remercier, ainsi que Céline qui anime cette salle, partenaire de cette soirée. Cette année, ce sera le lundi 14 mars. Et comme d'habitude, il y aura deux films. Et comme presque d'habitude, oui, c'est un petit peu comme ça que ça se présente, il y a à la fois un documentaire et une fiction, parce que malgré les difficultés, malgré tout ce que l'on a entendu tout à l'heure, il y a aussi des cinéastes palestiniens, alors qui quelquefois ont des difficultés pour la production de leurs films et qui sont obligés là aussi d'engager des partenariats avec des pays, puisque la Palestine en tant que pays n'existe pas, hein, donc il faut trouver le biais. Donc cette année, ce sera donc, je l'ai dit, le lundi 14 mars, il y aura deux films. Le premier sera projeté à 18h15, ça s'appelle « Little Palestine ». C'est un documentaire que je pense sera très, très, très intéressant, éprouvant aussi d'après ce que l'on m'en a dit, qui s'appelle « Entre le paradis et la terre ». Non, pardon, je me trompe, c'est le second ça. Le premier, ce sera « Little Palestine », « Journal d'un siège ». C'est un jeune Palestinien qui était lui-même dans le camp de réfugiés,
hein, Yarmouk, oui,
près
Yarmouk.
De Damas,
oui, oui.
Le plus grand camp de réfugiés, voilà, une véritable ville de 100 000 habitants
en Syrie.
C'est donc le plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde.
Oui.
Et à la suite de la révolte dans les pays arabes, et notamment en Syrie, il y a eu une répression féroce et un siège qui a été imposé d'abord par le pouvoir syrien. Yarkoud s'est retrouvé complètement isolé, avec des privations quotidiennes, et des difficultés sans nom. Et le jeune cinéaste, qui à l'époque n'était pas cinéaste, mais qui, dans ce contexte-là, a pris une caméra et a filmé tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a trouvé, en pensant que peut-être ça pourrait être utile pour témoigner par la suite. Et il n'y a eu non seulement le siège imposé par le régime syrien, mais il y a eu ensuite les islamistes qui ont occupé ce camp. Donc il y a des tas de réfugiés qui sont partis aux quatre coins du monde. C'est comme ça que le jeune Palestinien en question, Abdallah Al-Khatib, se trouve maintenant réfugié en Allemagne. C'est qu'à partir de là qu'il a fait le montage de son film avec l'aide de cinéastes confirmés. Donc c'est un document poignant qui rend hommage au courage de ces intervenants, c'est-à-dire la population, les hommes, les femmes, les enfants qui ont supporté, mais avec beaucoup de dignité et de courage, tout cela. Là, ça sera donc pour le film à 18h15. Il y aura un petit intermède, et pour ceux qui veulent se restaurer rapidement, possibilité de retenir à la brasserie du parc, mais nous donnerons des informations en temps utile là-dessus. Et après, le soir, à 21h, un film de fiction, alors, qui s'appelle « Entre le paradis et la terre ». C'est une jeune femme, une réalisatrice palestinienne, Najwa Najjar. C'est un film de 2019. Alors là, c'est une histoire, entre l'histoire d'un road movie, d'un couple palestinien qui est obligé de se rendre en Israël pour pouvoir divorcer. La procédure prend un tournant quasi kafkaïen quand l'administration israélienne informe le couple que leur demande ne peut aboutir, car le décès du père de Tamer n'est pas enregistré en Israël. Alors ça, c'est le genre de situation complètement aberrante que l'on peut vivre en Palestine. Voilà. Donc, je ne connais pas ce film. Je pense qu'il est aussi très intéressant, mais c'est une fiction. Et voilà, ça fera le pendant avec le documentaire qui aura été projeté à 18h15. Comme donc tout à l'heure Christian l'a rappelé, nous utilisons le cinéma aussi pour faire connaître un peu la réalité, et puis montrer aussi que il y a des artistes, il y a des créateurs, il y a des cinéastes aussi palestiniens malgré toutes les difficultés. Et il a été rappelé tout à l'heure, notamment la séance du 9 décembre qui a connu un réel succès. Voilà, moi, pour ce que j'avais à en dire, mais je pense que nous ferons une information plus rapprochée ensuite du 14 mars pour rappeler oui. aux auditeurs le contenu de la soirée. Je pense que là, maintenant, c'est Mahmoud, je crois qu'il y a quelques mots à nous dire avant que nous ne terminions.
Oui, deux secondes avant, je vais peut-être compléter un petit peu la liste de nos projets. Évidemment, nous continuerons les émissions en partenariat avec Radio Albigest, avec notre ami Ziad en direct de Gaza. Nous programmerons aussi des sorties, si je puis dire, pour populariser la campagne BDS, si possible avec toutes les organisations partenaires et parties prenantes de cette campagne, notamment la FPS 81. Et ensuite, nous efforcerons aussi d'avoir quelques actions, je dirais, ponctuelles, particulières, que nous pouvons peut-être mener en fonction de quelques dates clés du calendrier palestinien. Et pour cela, nous comptons sur Mahmoud pour avoir connaissance de ces dates qui résonnent, je dirais, au sein du peuple palestinien. Voilà.
Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je remercie la radio Al-BGS de me donner l'occasion de parler de la cause palestinienne. Grâce à des associations françaises comme Comité Palestine 81, AFPS, Euro-Palestine, BDS, Palestine Vaincra, etc. La solution de 12 États et l'application de la résolution de l'ONU ont progressé dans l'opinion publique, mais le gouvernement israélien refuse toujours. Autre chose, Amnesty International a reconnu le régime israélien comme un système d'apartheid. L'amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme fait par le gouvernement israélien et les opposants à la cause palestinienne est aussi en train de reculer dans l'opinion publique. Le peuple palestinien se bat pour pouvoir vivre libre et en paix dans son pays avec un État démocratique sans aucune discrimination. Pour y parvenir, la solidarité internationale joue un rôle capital. Vive la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien. Merci beaucoup.
Moi, je voudrais ajouter que ce que vient de signaler Mahmoud, qu'avait évoqué aussi Christian tout à l'heure, me paraît très important qu'une association internationale comme Amnesty International ait produit un rapport très circonstancié, très documenté, pour qualifier d'apartheid, ce qui n'est pas rien, le système politique israélien est très important. Il y aura sans doute des retentissements dans l'opinion publique, non seulement française, mais internationale. Parce qu'il fut un temps où, lorsque les militants comme nous, au Comité Palestine ou autres, qui osions affirmer que c'était un système d'apartheid, alors l'apartheid, ça renvoie à ce qu'on a connu en Afrique du Sud, évidemment, quand il s'agissait de parler du sort subi par les Palestiniens, avec la prison à ciel ouvert de Gaza, avec les colonisations rampantes et les infrastructures différentes en Cisjordanie pour les Israéliens et pour les Palestiniens, avec aussi le sort, d'une certaine manière, des Palestiniens qui sont Israéliens, qui vivent à Gaza, parce qu'ils vivent à Gaza parce que c'est leur pays, quoi. Et pas à Gaza, en Israël. Voilà. Eh bien, on nous traitait, on disait qu'on exagérait, que franchement, il ne s'agissait pas de cela. Lorsqu'une association aussi reconnue, aussi sérieuse qu'Amnesty International le dit et le qualifie, preuves à l'appui, je pense que c'est très important, que c'est de nature à faire évoluer les choses là aussi.
Oui, on imagine mal cette fois quand même Israël avoir le culot de dire que Amnesty International est un ramassis d'antisémites. Là, je crois que quand même ils n'iront pas jusque-là cette fois. Et là, j'ai l'impression que nous marquons des points.
Voilà, mais Mahmoud, c'est à toi de jouer.
On écoute maintenant pour une chanson palestinienne par Rim Al-Banna. Rim Al-Banna, né en 1966 à Nazirat, Palestine, est décédé en 2018. Donc, c'est une femme très connue, homme palestinien et un monde arabe aussi. Et on écoute.
والناس شردوها بقوة شوية أحجار وياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد
Voilà, c'est une chanson de notre capitale, Al-Quds, Jérusalem. Elle dit que les Israéliens, ils ont enfermé le Jérusalem et personne des Arabes ne peut entrer là-bas. Ils ont brûlé, ils ont expulsé les gens, mais les Palestiniens toujours résistent pour avoir leur liberté. Merci.
Voilà, c'est sur cette belle voix, même si elle rapporte des propos assez tristes, que va se terminer notre émission. Nous donnons rendez-vous à tous les auditeurs d'Albigès pour une prochaine édition. Au revoir.
ياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع